Le problème, c'est qu'il y a des personnes qui écoutent, qui entendent et puis qui m'écrivent. Pour le moment, j'ai deux personnes au Canada, mais ça arrive à d'autres places. Donc, il faut que. Quand j'oublie, faites-moi un signe. Donc, nous sommes dans 2 Rois 5, versets 2 à 4 et verset 15. Et nous voyons l'exemple même d'une petite fille et d'un prophète qui n'ont pas des bouquets de fleurs de la part de leur entourage. Ils n'ont pas de reconnaissance immédiate. Mais leur cœur déborde de vérité. Leur cœur déborde d'un témoignage, d'une grâce excellente. Et comme on a une réunion d'église aujourd'hui, je voudrais vous dire que notre église est petite, mais qu'elle soit riche de Christ. Et ça lui suffit. Notre église est minoritaire, mais même si nous ressentons souvent le petit nombre comme un échec, nous avons tort. Nous ressentons parfois le petit nombre comme une grande perte au niveau de l'église. Mais c'est un faux message, c'est un message de la chair. Si Élisée, cette petite fille, avait été vaincue par des sentiments de tristesse et avait laissé leur foi se dégrader, ils n'auraient jamais porté de fruits. La petitesse d'une église, la petitesse d'un croyant, et le fait d'être en minorité n'est pas un malheur. C'est une grâce. C'est une grâce. Regardons dans Philippiens, chapitre 3, versets 7 à 11. Pourquoi je dis ça? Parce que, oui, bien sûr, faire une réunion de faire un bilan. Le président doit faire un bilan de l'Église. Ben oui, le bilan. Mais voyons-le avec les yeux du Seigneur, sinon on va tromper à la sortie de la réunion. On sera sur les jantes. Mais ce n'est pas ce fait-là que Dieu veut. Dans Philippiens 3, 1. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse pas de vous écrire les mêmes choses. Et pour cela, vous, cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Donc, il est clair, il y a des gens qui se disent croyants, qui ne sont pas des vrais témoins de Dieu, de Christ, et qui ne sont pas attachés vraiment à Christ. Mais voilà, au verset 3. Les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ, qui ne mettons point notre confiance dans la chair. C'est clair, Élisée ne mettrait point sa confiance dans la chair, ni dans les cadeaux du roi de Syrie. Alors, attention pour nous, attention pour nous. 1 Corinthiens 3, 1 Corinthiens 3, 16. La condition de la foi est toujours d'être combattue. La vraie foi. J'insiste. Donc 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Mais nous sommes habitués, parce que quand quelqu'un a une religion du succès, elle a un beau temple, un bel édifice. Or, ici, nous voyons que Paul ne s'intéresse pas à ça. Il dit, c'est vous le temple. Or, l'église de Corinthe était faite aux trois quarts d'anciennes prostituées, d'esclaves. D'esclaves. À l'époque de Paul, il y avait 550 000 habitants à Corinthe. C'était quasiment tous des esclaves. Pour qui tiraient les bateaux sur la colline, avec des cordes, jusqu'à s'ancrer pour faire passer la flotte marchande, la flotte de guerre de Rome, et faire gagner des journées à la navigation et avoir moins de risques alentour du Péloponnèse. Et pratiquement, ces hommes et ces femmes qui souffraient dans le travail et qui n'avaient pas de salaire, ils avaient juste à manger, qui avaient été pris dans nos pays, un peu partout dans l'Empire romain, et qui ne retourneraient jamais chez eux. Ce sont des gens comme la petite fille en Syrie qui a parlé au roi de Syrie. Et c'est cela que Dieu a choisi pour être ce témoin. C'est cela que Dieu a choisi pour être le vase sacré dans lequel il va mettre la lumière de l'Évangile. Imaginez. verset 17, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint, c'est ce que vous êtes. Vous êtes le temple, ce temple est saint, il appartient à Dieu, que personne ne le détruise. Votre vie de foi, votre vie de chrétien, que personne ne le détruise. Pourquoi ? Parce qu'il s'en prend directement à Dieu s'il attaque votre situation de chrétien. En minorité, situation de chrétien en souffrance et dans la petitesse. Et qui va connaître l'échec ? Ceux qui attaquent les vrais chrétiens. Qui va connaître l'échec, le jugement de Dieu ? Ceux qui s'en prennent aux vrais croyants. C'est clair. C'est mis clairement, Dieu détruira ceux qui veulent détruire le temple de Dieu. Donc, il faut avoir une identité claire. Nous avançons dans des périodes difficiles. Notre assemblée s'est restreinte, est restreinte, et pratiquement, elle peut après s'épanouir. Et évidemment, ce n'est pas un malheur si pour le moment c'est comme ça. Il faut faire attention. Chaque personnalité dans l'Église doit vivre sa richesse avec Christ, comme la petite fille en Syrie, comme Élisée dans sa maison avec son serviteur Géasi. Chaque personnalité dans l'Église doit vivre sa richesse, c'est-à-dire son Christ. Le vrai Christ, Jésus, chaque personne de nous doit le vivre personnellement. C'est un trésor incomparable. Le Fils de Dieu dans la vie du chrétien. Et bien sûr, nous ne pouvons pas faire de grands rêves de gloire. Dans Philippiens 2,7, nous l'avons lu. Est-ce qu'on l'a lu, Philippiens 2,7 ? Pas encore ? Non, on va aller voir, je suis un peu... Vous allez voir que c'est clairement, pour nous c'est un programme, versets 5 à 7, Philippiens 2, versets 5 à 7. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, donc le même cœur. Tout à l'heure Vincent disait que Galates chapitre 5, dans le même esprit, et puis après il y avait toutes les qualités même de la personne du Saint-Esprit. Qui sont reprises dans l'épître de Jacques. Et donc, c'est les mêmes qualités dans la personne de Jésus. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, donc les qualités intérieures, morales, affectives et profondes. Un cœur comme celui de Jésus, une pensée comme celle de Jésus, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Nous n'avons pas à envier le monde et à être son égal, à réussir et à briller comme le monde. Nous ne devons pas le faire. Car Jésus lui-même, qui était le Fils de Dieu, n'a même pas cherché à garder sa gloire qui était au ciel. C'est un témoignage remarquable que le Fils de Dieu ait fait ça pour nous. Parce que ce n'est pas ça qui compte. La gloire du monde, la gloire venant des humains, n'est pas ça qui compte pour nous dès le moment où on est devenu enfant de Dieu. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Le simple homme, Jésus. Quand vous lisez Ésaïe 53, rappelez-vous ce qui est mis dans Ésaïe 53. Oui, c'est même pas ça. Ça, c'est déjà la croix. Voilà. Il a, avant d'aller à la croix, de porter cette souffrance, eh bien, je dirais, le portrait robot de l'individu Jésus de Nazareth, eh bien, vous pouvez... est-ce que vous le reconnaîtriez dans la rue, s'il venait ? S'il venait un jour, demain, après-demain, dans la rue, est-ce que vous le reconnaîtriez ? Vous ne pouvez le reconnaître que si vous l'avez dans votre cœur, que si vous le vivez en vous. Vous ne pouvez le reconnaître qu'à cette condition-là. Alors, donc, verset 2, il s'est élevé devant lui, devant Dieu, comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. » Donc, c'est surtout à la fin de ce verset, nous ne faisons de lui aucun cas. Et aujourd'hui, dans notre société, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ce qui se passe avec Jésus. On ne fait de lui aucun cas. Il n'y a rien de neuf sous le soleil. Et ça, c'est notre maître, c'est notre Seigneur. Si le Seigneur qui est en nous, le monde n'en fait aucun cas, pensez bien que nous, chrétiens, le monde n'en fait aucun cas. C'est un faux message quand on laisse croire que tout va péter comme du feu et des flammes et qu'on va être un chrétien reconnu qui va briller, etc. Ça, c'est l'exaltation du moi, c'est l'exaltation que Satan a voulu donner à Adam et Ève. Mais Jésus n'a jamais proposé ce chemin-là. C'est un petit chemin étroit avec une porte basse. Alors, dans Jean 15-20, je pense que la condition de notre Église, quand on fait un bilan de notre Église, il faut savoir, est-ce que nous sommes en Christ ou pas ? Est-ce que nous sommes sur le chemin de Christ ou pas ? Est-ce que nous vivons comme notre maître ? C'est ça que je voulais aujourd'hui approfondir. Et je m'étais mis au lit assez tôt pour me lever plus tôt, et puis je dis, mais il y a des choses toutes simples à dire pour aujourd'hui. Jean 15, 20. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Alors, il y a des personnes qui vont garder la parole quand on témoigne, quand on en circule. Mais peut-être que nous, on ne s'en rend pas compte, ça ne va pas porter les fruits, on ne le voit pas. J'ai ça presque dans tous les cas de mes visites aujourd'hui. Les personnes que j'instruis maintenant en visite, où je prends des heures avec, c'est des personnes qui, il y a de nombreuses années, il y a 15-20 ans, ne faisaient aucun cas de l'Évangile que je voulais leur proposer. Mais il s'est passé quelque chose. C'est pour ça que il faut être comme la petite fille prisonnière en Assyrie. La petite fille a osé parler. Il faut oser parler et on ne sait pas quand ça va germer. On ne sait pas quand Jésus va apparaître comme le faible rejeton dans la vie de cette personne. On ne sait pas. Au départ, la personne va n'en faire aucun cas. Et puis après, Jésus va apparaître dans sa vie. Hier, il y a une personne qui me disait, je l'avais connue, je la connaissais avant. Et c'est seulement maintenant que je fais des études bibliques depuis 3-4 mois avec elle, tous les samedis après-midi à Arlon. Eh bien, elle s'est rendue compte, à 35 ans, en étant pour une fois en vacances dans les Vosges, à la Bresse, dans la forêt, il y a des lacs isolés, il n'y a personne, et il y avait une splendeur, le soleil, la forêt, le reflet de la montagne et des forêts dans le lac. Elle a été saisie par la grandeur de Dieu, elle a vu la gloire de Dieu, elle a été tellement touchée que c'était fini, elle n'était plus la même. Alors, depuis lors, elle est toujours en action de grâce dès qu'elle voit un papillon, une mouche, elle voit quelque chose, un soleil, elle voit une feuille, une plante, elle est toujours en action de grâce. Dieu a fait son chemin en elle, et puis c'est après qu'elle m'a demandé pour étudier la Bible. Et vous voyez que la parole de Dieu vient arroser un cœur que Dieu a ouvert. La parole de Dieu vient construire et donner le salut à quelqu'un que Dieu a ouvert au préalable, a touché. Alors, elle confiait que son fils, qui a 25 ans, n'intéressait à rien du tout. Et elle dit, mais c'est quand je suis triste, quoi, parce que mon fils, il ne vit pas ça. Moi, ce que je ressens, il m'écoute, il me respecte, mais il ne ressent rien. Je le vois bien. Il ne ressent rien. Mais ne tracasse pas. Nous avons 3 fils comme ça. Je réponds à cette femme. Nous avons 3 fils. Ne souffre pas. Avant que tu ailles à la Bresse, au bord du lac, et que tu étais toute seule, tu étais comme lui. Et tu as eu 35 ans. Et lui, pour le moment, il en a 25. tu avais dans le carnet de rendez-vous de Dieu un jour de grâce qui était marqué pour te toucher. Et c'est là que Dieu t'a touché. Remets simplement à Dieu, Seigneur, inscris mon fils dans ton livre de grâce. Dans ton livre où tu vas lui communiquer la grâce, tu vas lui ouvrir les yeux, faire sortir la lumière de quelque part pour toucher son cœur. Prenons Ésaïe 42. Quand nous avons une jeune fille ou un jeune homme ou un frère, un cousin, tout ça, qui n'est pas dans le Seigneur, mais simplement, il faut faire des requêtes, il faut recourir à Dieu. Et Dieu va lui demander, Seigneur, opère un jour, quand tu veux, là où tu veux, de la manière que tu veux, la grâce que moi je ne pourrai jamais faire, qui ne m'appartient pas, qui n'est que de toi. Et Seigneur, j'ai fait confiance à toi. C'est au nom de cette confiance que vous verrez des bénédictions. Si on fait cette demande en pleurnichant et en doutant, il n'y a encore rien du tout qui arrivera. Alors, Jésus, au chapitre 42, est le serviteur Ebed-Yahvé. Je soutiendrai mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations, la sainteté. Mais c'est quelqu'un dont personne ne fait aucun cas. C'est une personne que tout le monde dédaigne, qui n'est pas beau d'aspect, etc. Hein? Reprenons l'autre texte. Donc c'est celui-là sur qui Dieu a mis toute sa sainteté, son esprit. Il ne criera point, il n'élèvera point la rue. Il n'a pas Internet. Il n'a pas tous les moyens modernes, il aurait pu naître aujourd'hui. Et couvrir le monde de ses images et de ses paroles, comme certains savent faire aujourd'hui. Il essaye de mener le monde. Il a choisi une autre époque et il ne voulait pas de ça. Il ne criera pas, il n'élèvera pas la voix, il ne fera point tente dans les rues. Il ne brisera pas le roseau cassé, il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Donc cette femme à 35 ans au bord du lac, qui est un roseau froissé, plié, une mèche qui fumait à peine, qui était presque éteinte, s'est allumée. Ce roseau s'est redressé, il a grandi. Et le Seigneur est grand, hein, le Seigneur est grand. Verset 6, Dieu dit ceci, « Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. » Le salut de cette personne que j'enseigne, d'autres que j'enseigne aussi, il est là pour des gens que vous rencontrez, que vous visitez, pour qui vous priez. « Je t'ai appelé pour le salut. Je te prendrai par la main, je te garderai, je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. » Donc, il n'y a pas de limite. Ce n'est pas seulement Israël. Pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison les captifs, de leur cachot, ceux qui habitent dans les ténèbres. Elle peut donc faire confiance, cette mère de famille, si elle sait que Jésus, c'est son mandat venu du ciel pour Jésus. Au verset 16, « Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière. Les endroits tortueux en pleine. » Endroit tortueux, c'est nos cœurs, nos esprits. À la retraite qu'il y aura à Pâques, avec M. Locher, j'espère inviter des personnes que je visite. J'espère. Il faut que dans le plus grand respect de l'un et des autres, on prie, on demande à Dieu de faire des grâces sur les personnes. Mais ce n'est pas en posant des questions à tout bout de champ qu'on va faire venir la grâce. Il faut vraiment, vraiment mettre ces personnes et ce moment de retraite dans les mains de Dieu. Et il faut... Je pense qu'il faut être discret, il faut être confiant dans l'Éternel et il faut être dans l'intercession pour préparer cette retraite. Comme sans doute un camp de femmes ou de jeunes filles en été, si Noémie veut le refaire, elle a déjà un projet dans son esprit. Si elle le refait, c'est la même chose, ça se prépare dans la prière. La prière, c'est quoi? C'est seulement à Dieu de faire grâce. La petite fille en Syrie parlait de son Dieu. Et après, quand Naaman est parti, elle priait que Dieu fasse grâce. quand il va rencontrer Élisée, que Dieu fasse grâce, le grand Dieu qui parle par Élisée. Et effectivement, sa prière a été exaucée, et je pense qu'elle a été infiniment plus respectée par le roi et par tous ceux qui l'entouraient après, en disant, celle-là, elle a un grand Dieu. Nous, nous avons des petits dieux. Et c'est ainsi que parfois, nous, dans nos sociétés, des gens comprennent que nous avons un grand Dieu. Ils avaient un Dieu puissant, vivant, mais ils ne se donnent pas à lui. Et n'essayez pas de perforer leur conscience, de obliger. C'est dans le secret de la chambre, dans le secret de la prière, soit en église comme tout à l'heure on l'a fait, soit tout seul, qu'il faut demander ces grâces-là. Dieu demande qu'on soit des intercesseurs. Alors, c'est pour ça que dans Jean 15, 20, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Il arrive que des personnes gardent précieusement un verset qu'on a dit, un témoignage qu'on a fait. Et puis, ils vous quittent. Ils ne s'intéressent plus à vous. Et 5, 10, 15 ans ou 2 jours après, vous les voyez arriver qui sont différents. Parce qu'ils ont gardé dans leur cœur. Et ce n'est pas perdu. Le témoignage n'est jamais perdu. Regardons dans Matthieu 23, 11. Notre Église a une richesse, c'est parce qu'elle passe par le creuset de l'épreuve. C'est des richesses en général qui ne nous intéressent pas beaucoup humainement. Mais je pense que c'est quand même un bilan, il faut le faire, un diagnostic. Dans Matthieu, chapitre 23, à la fin du... Verset 11, pourquoi j'ai dit ça? Oui. Verset 11, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera baissé, quiconque s'abaissera sera élevé. La richesse d'une église, c'est l'absence d'orgueil. C'est l'absence d'orgueil, c'est l'absence de prétentieux. C'est l'absence de m'as-tu vu et de gens qui veulent mener les autres par le bout du nez. Vous comprenez? Et Jésus l'a dit clairement. Un seul est votre directeur, le Christ, au verset 10. C'est Jésus qui nous dirige, c'est le Christ qui nous dirige. Dans quelles conditions? Dans la plus grande humilité, dans l'esprit de service. Les amis, le serviteur a des caractéristiques comme celles de son maître. Et nous le trouvons à la fin du verset 23. À la fin du verset 23, donc dans toujours Matthieu 23, verset 23, à la fin du verset, il est mis ce qui est plus important dans la loi, donc dans la Torah, c'est la justice, la sainteté donc. La miséricorde, hezet, cette miséricorde, cet amour incommensurable de Dieu qui traverse mon cœur pour les autres, qui est un don céleste. La miséricorde est un don céleste pour les autres. Parce que vous savez, autrement, on se dégoûte d'aimer les autres. Hein. On est déçu. On arrive à vraiment, des fois, souhaiter le contraire. Et donc, pour que cette miséricorde soit réelle, il faut qu'elle vienne d'en haut. C'est là, hezet, c'est là. La charité de Dieu, l'agapé de Dieu. Et la fidélité, là, donc c'est la foi, c'est l'exercice de la foi. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Donc, il faut paraître juste devant Dieu. Ne pas chercher à paraître juste au dehors. Il faut paraître juste au-dedans. Il faut paraître devant Dieu. Tous les jours, il faut se présenter devant Dieu en disant, Seigneur, je voudrais bien être juste à tes yeux. Je voudrais bien que ta justice soit sur moi, agisse en moi. Et que toutes ces grâces-là qui coulent de ton cœur, de ton âme, se déversent sur moi, Seigneur. Sans toi, je ne suis rien. Les richesses incompréhensibles de Christ, comme dit Paul, hein, dans Colossiens. Alors, la richesse de l'Église, vous voyez, je pense que nous sommes dans ce chemin-là, même si parfois, pardon Seigneur, on n'y est pas vraiment. Et la richesse de notre vie, c'est la miséricorde, nous venons de le dire dans Matthieu 23, verset 23. C'est la simplicité, dans Philippiens 2, verset 10, 1 à 10. Et c'est le courage. Dans le Philippiens 2.13, c'est le courage. La richesse d'une église, c'est le courage. Et jamais ça. C'est pas le tout de dire j'ai la foi, mais il faut du courage. C'est une expression de la foi. C'est un trait de la foi. Il faut se ressaisir, il faut se combattre soi-même. Il faut s'offrir à Dieu. Dans Philippiens 2.13, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Vous voyez, pour avoir une volonté qui ne fléchit pas, pour avoir une fermeté dans l'action, dans le faire, c'est de Dieu qu'il faut en demander la force. Philippiens 2.13, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Paul le dit dans Éphésiens 6, fortifiez-vous en Christ, ça revient au même. C'est la même chose. Et ça rejoint tout l'enseignement qu'a donné tout à l'heure Vincent, cette eau vive, Jésus qui est la source de toutes les eaux du salut, de l'eau vive. C'est vraiment cela. Dans Jean 13, vous avez un exemple, mais tout simple. Et combien de fois, dites-vous, je n'ai pas perdu mon temps. Je n'ai pas perdu mon temps. J'ai l'impression qu'il va falloir encore que je recommence avec cette personne-là. Il va falloir encore... Ah, ça y est, ils sont venus à table, il a fallu préparer à manger, il fallait mettre à table. Il faut ranger tout, je suis crevé. Oh, pas avant 6 mois, la fois prochaine, ou 2 ans. Ou alors, même courir, se déplacer pour aider quelqu'un. Jésus ne nous demande pas d'avoir un amour éphémère, un amour passager. Il nous demande d'avoir un amour divin, constant, fidèle. Et dans Jean 13, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, donc la croix, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, nous appartenons à Jésus, ayant aimé les siens, nous appartenons à lui. Il faut le reconnaître, il faut lui dire, Seigneur, je t'appartiens, je suis à toi, garde-moi, et conduis-moi. Qui était dans le monde mit le comble à son amour pour eux. Donc Jésus se fait le serviteur, il prend, qu'est-ce qu'il va faire? Il va laver les pieds de ses disciples. Verset 4, il se leva de table, ôta ses vêtements, prit un linge dont il se saignit, il versa de l'eau dans un bassin, se mit à laver les pieds des disciples et essuya avec le linge dont il était saint. J'avais un grand ami qui est décédé, presque à 70 ans, c'était Jean Stoffacher. Et j'avais pris des réfugiés qui étaient ici, qui, au lieu de s'ennuyer, on allait à droite et gauche rendre service. Et quand parfois les gens donnaient de l'argent, j'étais très content pour eux. Et si les gens ne donnaient rien, c'est moi qui leur en donnais. D'office. Ils avaient été travailler quelque part, je me saignais en quatre, je leur donnais 10 euros de l'heure pour le travail qu'ils avaient fait. Et si jamais je voyais que la personne donnait de l'argent, ou me le confiait pour le donner, j'étais soulagé, évidemment. Mais je ne voulais pas que la personne qui venait, qui était chez moi, qui était réfugiée, qui est déjà humiliée par sa condition, soit encore plus humiliée. On m'utilise. On m'utilise parce que je suis dans une situation comme ça. Si je n'étais pas dans cette situation-là, je n'irais pas là. Mais je dois y aller, parce que... Et donc, il faut éviter ce dialogue intérieur qui détruit la personne, et il faut lui montrer une reconnaissance, qu'elle a droit à la dignité. Et donc, souvent, Jean Stoffacher m'a dit, je vois que Marie-Hélène et toi, c'est le lavement des pieds que vous faites aux autres. Il m'avait dit, Jean, je vois que tu n'es pas très doué pour prêcher, il m'avait dit ça. Mais je prie qu'un jour tu puisses prêcher clairement. C'est quand même drôle, en général j'ai vu des gens, ils servent Dieu, soit ils sont excellents dans le service, des choses domestiques, des choses humbles, ils ne savent pas bien prêcher, ou l'inverse. Ils savent très bien prêcher, mais ils ne font jamais rien pour se mettre à genoux et laver les pieds des autres. Et il a dit, moi je prie pour que tu fasses, tu aies les deux. Jean Stoffacher me dit ça. Et je me rappelle bien les réfugiés que j'ai conduits là-bas, c'était à Algrange, on a fait du béton, parce qu'il y avait un mur qui s'était écroulé sur le jardin du voisin, on a fait ça plusieurs fois, et moi je suis crevé bien sûr de faire tout ça, fatigué, mais par amour de Jean, parce qu'il ne pouvait pas prendre une entreprise, ça lui coûtait un prix fou, il ne m'a rien donné pour moi, je ne voulais rien, mais il a donné quelque chose pour ces hommes-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Cette parole qu'il m'a dite était essentielle pour moi. Il faut allier le service, il faut avoir cet esprit de service de Jésus, mais il faut demander à Dieu le don de pouvoir parler de Dieu. Il faut demander à Dieu le don. Et si quelqu'un n'a pas parmi vous, quand il est dans une situation avec les autres, il n'arrive pas, que les frères et les sœurs prient pour lui et l'encouragent. Que les frères et les sœurs, comme Jean Stauffacher a fait pour moi. Pourquoi est-ce que Paul dit « Priez pour moi pour que j'annonce hardiment l'Évangile » Mais parce qu'il y avait des jours, ça ne pouvait pas sortir, il était coincé, il n'était pas bien. Ne prenez pas Paul pour un super-homme. Il n'y a pas eu d'apôtre ou de femme qui était avec eux, super-femme, super-homme. Ils ont tous eu besoin du don de la parole, du don du témoignage verbal et du don du service. Un sans l'autre, ça ne va pas. Et je pense que dans notre église, dans notre assemblée, je vais vous dire, moi je pense que j'ai la joie de voir que ça existe. Ça existe. Quel grand trésor nous avons. Quel grand trésor nous avons. Et si quelqu'un, je vous le dis, ne sait pas encore s'exprimer et parler de Jésus clairement et simplement, qu'il le dise, qu'on prie pour lui, à plusieurs, soit tout seul, chacun de notre côté, ou ensemble avec lui. Et même s'il faut faire l'onction d'huile, qu'on la fasse. Rappelez-vous, l'apôtre Timothée, le disciple Timothée, avait un esprit de crainte, hein, de timidité, et il ne pouvait pas. Il était bloqué, alors qu'il avait une connaissance énorme de la Bible, et de Dieu, et de Christ. Et Paul lui a imposé les mains, et lui a dit, c'est pas un esprit de timidité, de crainte, de peur que tu as reçu, c'est un esprit de force, d'amour et de paix. Suivant l'éducation que nous avons reçue, les échecs que nous avons connus, les bêtises qu'on a faites, et puis on s'est dégonflé, on est cassé, et on n'arrive pas à témoigner, parce que la chair nous attire vers le bas, mais la grâce nous attire vers le service de la parole et le service du serviteur, le serviteur qui lave les pieds. Tout est service pour le chrétien, à tout niveau, à tout instant, même dans sa prière tout seul dans sa chambre. Dans Matthieu 24, 42, je voulais qu'aujourd'hui, pour ces deux petites réunions, qui seront certainement moins longues que les autres années, mais pratiquement, nous ayons un regard de paix et clair sur notre présent, sur notre avenir. Matthieu 24, 42. Veillez. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Veillez. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer son mur, le mur de sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Tenez-vous prêts. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Donc, c'est un serviteur. Le maître est parti, toute la maison doit avoir à manger. Tout le monde doit avoir à manger. Allez, débrouille-toi, moi je suis parti 15 jours, il faut que ça tourne. Et qu'est-ce que fait ce bon serviteur fidèle et prudent, donc qui est dans la foi et dans la sagesse de Dieu? Eh bien, il y arrive. Verset 46. Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. En vérité, je vous le dis, il l'établira sur tous ses biens. Surtout ses biens, ça veut dire, c'est beaucoup. C'est beaucoup dans le royaume de Christ, le jour que le Seigneur établit son royaume. Donc, se tenir prêt, se tenir dans le service, dans la vigilance, c'est quelque chose que nous devons toujours développer dans notre assemblée, et qui, à mon avis, déjà est souvent à l'œuvre, hein. Plus chez l'un que chez l'autre, mais c'est à l'œuvre, ça c'est sûr. Prenons Hébreux 11:6. Lorsqu'on se trouve dans la prière, il y a des jours où c'est pas terrible, hein. C'est pas terrible, on n'est pas très en forme, hein. Et puis, on ne sait pas quoi ce qu'on va dire. Mais simplement, regardez Hébreux 11, verset 6. Simplement, Seigneur, je crois en toi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Seigneur, je crois en toi. Je sais que tu es là. Je sais que tu m'as donné la vie. Je sais que tu me donnes la respiration. Que mon sang qui coule et qui fait le tour en 8 secondes de tout mon corps, c'est toi qui le tiens. C'est toi qui orchestres toute ma vie. Et si je me réveille au matin, c'est toi qui a permis que je me réveille et que je me lève. Alors, Seigneur, je sais que Jésus m'aime. Il est mort, il est ressuscité. Et il nous a promis d'être au milieu de nous. Il a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Je sais, mon Dieu, que Jésus et mon berger. Voilà la foi. Il faut rappeler des données fondamentales qu'on entend au culte, qu'on lit dans la Bible, et les rappeler à Dieu. C'est ça la foi. Et Seigneur, je ne sais pas ce que je dois demander. Je n'en peux plus. Mais Seigneur, je sais que, puisque tu sais tout, tu connais mes besoins. Je te fais confiance. J'avais, pour vous donner un exemple, un WC médiocre en haut, depuis qu'on est malade, cruralgie, etc., les genoux, un WC, poum, qu'on est dessus, on dégringole pour se ressortir, plus moyen. Hein. On a mal partout, c'est une torture que d'aller là-dessus. Hein. À la limite, il vaut encore mieux rester debout et viser en face. Quoi. Alors, c'est plat ce que je dis, mais en attendant, en bas, il y a des gens qui viennent âgés, il y a des gens qui vieillissent dans l'église et qui vont à la toilette. C'était la même toilette. Et puis en plus, il y avait un joint de mortier qui était horrible en dessous, etc. Alors, c'était pas folichon. Il vient des gens d'un peu partout logés chez nous quelques jours. J'ai dit, Seigneur, je n'en peux plus. Il va encore venir des gens cette année-ci. Je commente, je refais faire les robinets où il manquait l'eau chaude ou l'eau froide, toujours. À plusieurs robinets, il manquait soit de l'eau chaude, l'eau froide. Et comme j'avais mal partout, j'arrive plus à me coucher en dessous des éviers, j'arrive plus à faire. Et fini, j'arrive pas tellement j'ai mal, j'arrive plus, je m'énerve. Alors je dis, Seigneur, je prends quelqu'un qui répare les robinets qui ne vont plus, les robinets qui vont au jardin pour arroser, pour que l'école ait de l'eau en été, et les WC. Seigneur, oh, tout ça, ça va me coûter autant dans ma tête, hein. Parce que j'avais une entreprise. Seigneur, je t'en prie, je compte sur toi, c'est pas pour moi tout ça. Dans la semaine, j'ai reçu 3 chèques. Un chèque de 1000 euros, un chèque de 800, un chèque de 500. Et tout ça pour des robinets et des WC. Pour payer l'entreprise qui passe, évidemment. Parce que les ouvriers qui viennent, ils ont droit à leur casse-croûte. C'est pas tout d'être gentil avec eux et de leur donner une tasse de café. C'est que je paye le patron pour qu'eux soient payés. C'est ça. Donc, Seigneur, je n'avais rien. Mais je dis, ça commence à bien faire ici. Ça ne tourne à rien, la maison. Et il faut que ça soit en ordre pour tous ceux qui passent. Et pour nous aussi, parce que pour finir, on resterait collé sur le WC, on ne saurait plus se relever. Alors, il y a des poignées. Il y a des poignées. Alors, c'est tout ça, c'est des bêtises, ce sont des bêtises de la vie, des petites choses de la vie quotidienne, mais j'avais mis ça dans la prière, j'avais pesé ça, et dans la semaine, les trois chèques. Quand j'ai vu les chèques, j'ai dit, Seigneur, je sais que tu es vivant et que tu réponds. Vous savez, quand je fais mes comptes, j'espère que vous le faites, je fais tous mes comptes de 3 mois à l'avance. Ouh là là, il y a ça à payer dans 3 mois, ça dans 2 mois, je fais mes colonnes. Et puis, je fais un rond ASS. Point d'exclamation. Au secours, Seigneur. ASS. Au secours, Seigneur. Ben oui, parce que... Pas moyen. Pas moyen, il y a toujours des trucs, tous les mois, et toujours, c'est en négatif. Au secours, ASS. C'est pas de la formalité, c'est pas de la bêtise, c'est pas de, je dirais, le gosse, quoi. Le monsieur, mon père refait le gosse, quoi. Il sait plus, il fait n'importe quoi, il fait des achats, il ne sait pas ce qu'il fait. Bon, écoutez, parfois j'ai entendu ça, c'est vrai, parfois c'était pas vrai. Alors, pratiquement, la foi, Dieu la reconnaît, et Dieu agit.
Mais regardez...
Reconnaissez vos besoins, les besoins réels, reconnaissez-les, et de présentez-les à Dieu. Vos besoins réels, pas les superficiels. Donc dans l'Église, chacun de nous a des combats. Il faut avoir l'humilité et la simplicité de définir devant Dieu tous ses comptes, de faire le total dans une farde, et de mettre « Seigneur, voilà où j'en suis. Seigneur, merci parce que je m'en sors ce mois-ci. Ce mois-là, je ne m'en sortirai pas. Seigneur, viens à mon secours. » Le fait de le mettre, vous mettez Dieu devant. C'est fini de compter sur vous-même et de vous accrocher à des... s'énerver et chercher tous les moyens à s'acharner pour s'en sortir. Et on s'acharne tout un temps, pendant des années, puis à un moment donné, ça craque, on n'y arrive plus. On n'y arrive plus, même en s'acharnant. Donc, reconnaissons nos limites et demandons à Dieu de garder ses enfants. Nous sommes ses enfants, même dans les choses, les petites choses matérielles ou les grandes choses matérielles. La vie est-elle un combat pour nous? Oui. Deuxième aux Corinthiens. La vie est-elle un combat pour nous? Deuxième aux Corinthiens, chapitre 10. Chapitre 10. Attendez, je me suis peut-être trompé. Deuxième aux Corinthiens, ah oui, c'est moi qui me trompe. Deuxième aux Corinthiens, ça va? Chapitre 10, versets 4 et 5. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements à toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Comment que c'est possible ça, les amis? Regardez au verset 3, si nous marchons dans la chair, donc nous sommes humains, nous ne combattons pas selon l'humain. Et puis Paul dit, les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes pour renverser les puissances démoniaques, diaboliques. Et nous renversons tous les raisonnements humains qui sont captifs de Satan. Et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Il est évident qu'il y a des gens, quand vous les mettez dans la prière, vous allez les revoir après, vous vous rendez compte qu'ils sont de moins en moins captifs. Ils sont de plus en plus ouverts. La porte s'entrouvre. Puis vous les mettez dans la prière, dans une prière silencieuse, prière de la foi, dans une profonde espérance. Moi, j'ai une profonde espérance, par exemple, pour le peuple. Je le dis franchement. J'ai une profonde espérance. Et j'espère bien, dès que ça va mieux, là, le genou, aller le voir régulièrement. Une profonde espérance. Il y a quelque chose qui me montre qu'il y a une porte déjà ouverte. Il faut savoir que les forteresses peuvent être renversées, que les raisonnements peuvent être renversés et retournés. Et ça, les amis, je vous donne un exemple. Un de nos fils est énervé au possible. Il a fait tout ce qu'il pouvait pour une maison, Il a travaillé pendant 4-5 ans, il était claqué, il a du boulot, et en face, dès qu'il sort, il y a 9 chiens qui aboient, qui se déchaînent. Mais il n'a jamais osé le dire, sauf cette semaine quand il est passé. C'est que la femme qui est là en face reçoit des gens chez elle, elle parle avec les morts. Et les gens viennent du Luxembourg avec des grosses voitures et tout ça, viennent la consulter pour dialoguer avec les morts. Mais pourquoi les chiens aboient-ils quand ils voient notre fils ? Moi, en tant que chrétien, en tant que pasteur, c'est des choses que je vous dis. Il a confessé sa foi, il a cru en Christ un jour. Il a vraiment, je me rappelle de la lettre qu'il nous a fait pour le baptême et tout. Il a été baptisé. Il était sincèrement attaché à Jésus. Il a eu des épreuves, il a chuté. Mais toujours, dans le livre de vie, son nom est inscrit. Et pour Satan, il est toujours marqué dans le livre de vie. Et chaque fois qu'il monte le bout du nez, les puissances hostiles se réveillent. Et lui ne comprend pas. Au point de dire, quand nous aurons fini de payer la maison, nous quittons cette maison-là. C'est un échec. L'homme humain sans Christ est dans l'échec. Satan lui joue toujours des tours. Et ce qu'il y a, si vous voulez, c'est que voilà un sujet de prière, que ces chiens se taisent, ou que la foi de notre fils grandisse, et que la belle-fille découvre la vraie foi en Christ, et qu'ensuite, par conséquence, les chiens se taisent. Et qu'il reste dans sa maison. C'est impossible là, il y a une rue, c'est des petites clôtures avec des jardins. Voilà. Donc, comment faire taire une forteresse? Comment faire taire des puissances qui sont là? Ne croyez-vous pas qu'à côté de chez vous, dans les maisons qui sont là, alentour de vous, il y a peut-être des puissances à l'œuvre? Il y a peut-être des forteresses à l'œuvre que vous n'imaginez pas? Et qui se tourne contre vous régulièrement pour vous faire du tort. Donc il est important d'avoir les armes du combat. Et les armes du combat ne sont pas charnelles, elles sont spirituelles. Nous avons en Jésus-Christ la capacité, l'autorité de demander, l'autorisation plutôt, de demander à Dieu d'arrêter l'œuvre du malin. Nous avons l'autorisation de demander à Dieu. Nous n'avons pas l'autorité par nous-mêmes. C'est Christ qui l'a. Mais il faut demander à Christ qu'il fasse son rôle alentour de nous, qu'il arrête les puissances qui nous font du tort. Même si notre foi est petite comme un grain de sénévé, la montagne doit être jetée dehors. Notre foi, c'est ça que Dieu regarde. Exerçons-la, parlons à Dieu. L'essentiel, c'est que dans l'Esprit Saint, j'agisse comme Jésus. Je me confie à mon Père des cieux. Je m'offre à Dieu et je demande à Dieu d'être mon berger. Chaque dimanche, quand il y a le culte ici, nous sommes dans la joie. Nous nous y sentons bien. Dieu nous restaure à chaque fois. Nous recevons sa vérité par les chants, par tout ce qu'enseigne Vincent, par la Bible. Hein, et 1 Corinthiens 5, les chants et les actions de grâce de chacun, les paroles de chacun dans la prière qui sont dites, sont des témoignages de la vérité. 1 Corinthiens 5, et je termine là. 1 Corinthiens 5, versets 6 à 8. Dans l'Église, on a le choix. Soit on devient présomptueux, fanfaron, hautain, l'apparence de la piété, c'est ça qui est mis dans Timothée, ou alors c'est autre chose, humble serviteur comme Jésus. C'est à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, donc la vieille nature, les vieux enseignements, les vieilles façons de faire, hein, le péché bien sûr, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Nous sommes une pâte nouvelle, sans levain. Il n'y a pas de ferment du passé. Il n'y a pas de ferment du péché qui puisse pourrir notre vie. Il faut faire le dire. Et qu'est-ce qu'il a mis? Il faut le dire à Satan. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Donc, en Christ, dans le culte, nous célébrons Dieu avec pureté et vérité. Je pense que ça, on peut en rendre gloire à Dieu. C'est évident, il y a eu quelque chose de grand qui s'est fait cette année, déjà depuis plusieurs années. Seigneur, nous vivons dans le désert. Nous vivons dans le désert. Ce désert est coutumier pour Jésus. Ce désert est coutumier pour Jean-Baptiste. Et nous vivons dans le désert et nous faisons confiance, Seigneur. Le rocher t'en pousse à travers le sol desséché. Et nous avons la foi, Seigneur. Nous avons la foi que Jésus vint le désert et vainqueur. Nous sommes sûrs, Seigneur, que nous avons une promesse de vie autour de nous, pour les autres. C'est une réalité première dans notre vie. Nous sommes sûrs de tes promesses, Seigneur, nous sommes sûrs de ton action. Nous te rendons grâce d'avance pour toute l'autorité que tu souhaites prendre ou que tu as déjà dans notre vie. Que nous soyons véritablement le temple de ta personne, Seigneur. Que tu y règnes parfaitement. Et Seigneur, je pense que nous avons déjà tous dit oui à ce règne ici. Mais Seigneur, fais-nous grandir ensemble, nous soutenir les uns les autres, pour que tous nous devenions plus forts en toi, Seigneur Jésus. Amen.
Amen.
Qui veut prier ou chanter ?